Bonjour à tous et à toutes. Merci Wendy de m'avoir donné cette opportunité de présenter notre travail. Donc, je vais présenter le travail qui a été effectué par l'équipe Interaction Humain-Machine du laboratoire d'informatique de Grenoble. Et on va principalement parler d'interaction multimodale et de modalités d'interaction. Donc, je reprends quelques éléments annoncés par Wendy. Le point de départ de l'interaction multimodale, c'est de constater que la communication humaine est par définition multimodale. Et lorsqu'on communique entre des personnes, on utilise bien sûr la parole, des gestes qui accompagnent la parole, mais il y a aussi plein d'autres informations. On parle de communication non verbale, dont la posture, les émotions, le regard, etc. Donc, on part de ce constat-là, et si on regarde actuellement comment on interagit avec nos ordinateurs, on voit que c'est assez limité. Wendy parlait d'un goulot d'étranglement, et on a une souris, un clavier et un écran. Donc ça a été le point de départ, je dirais, de l'interaction multimodale, avec d'un côté une communication assez riche, humaine, et de l'autre un ordinateur assez restreint pour pouvoir interagir. Et l'idée de départ était d'augmenter les capacités sensorimotrices des systèmes informatiques. Et donc on a vu, Wendy l'a présenté, le système que l'on considère un peu comme le premier système multimodal qui combinait des commandes vocales avec des gestes de désignation. Donc on parle du paradigme d'interaction du Messala où on combine les deux en même temps. Et ça, c'était il y a 40 ans. Et donc, finalement, si on regarde, on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé au grand public aujourd'hui ? Ce que l'on a aujourd'hui, parce qu'il y a eu des progrès assez importants faits en reconnaissance de la parole, ce qui est arrivé au quotidien, c'est effectivement la parole et qui a permis de fournir des outils, je dirais, des dispositifs multimodaux, grand public, comme par exemple cette tablette qui permet, si vous êtes en train de faire de la cuisine et que vous voulez passer à l'image suivante dans la recette et que vous avez les mains sales, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir utiliser la parole. Donc je vais utiliser cette tablette quand je cuisine avec la parole. Et par contre, si je suis dans un fauteuil, j'ai aucune raison d'utiliser la parole et je vais utiliser l'interaction tactile. Donc ici, ce qui est arrivé 40 ans après, c'est plutôt un choix qui est offert à l'utilisateur de la modalité pour interagir. Donc c'est plutôt un « ou », alors que le premier système, c'était vraiment un « et », c'est-à-dire on va combiner les modalités. Et je pense qu'aujourd'hui, l'étape suivante, et on peut espérer un peu moins de 40 ans, on aura des systèmes de ce type-là au niveau grand public. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc on est plutôt dans laisser le choix à l'utilisateur. Ça, c'est plus facile à développer que ce qu'avait proposé le premier système multimodal. Je voudrais faire aussi, avant de présenter un peu quelques concepts fondateurs de l'interaction multimodale, faire une parenthèse sur la terminologie et juste faire remarquer en termes de terminologie une sorte d'ambiguïté sur le terme multimodal. Multimodal peut référer à multimode ou multimodalité. Et ça, c'est un des problèmes, ce n'est pas forcément un problème, mais disons qu'il y a une certaine ambiguïté sur le terme. Et donc, on a soit des modes, et alors là, multimode, un système multimode, c'est, on parle de mode de communication. Donc là, on a classiquement l'écrit, le verbal, le non-verbal et le visuel. Et un bon exemple, c'est nos téléphones aujourd'hui, qui sont multimodales au sens multimode de communication, puisqu'ils permettent, ils offrent tous les modes de communication humains. Donc ça, c'est une façon de voir le multimodal, un système multimodal. L'autre, c'est modalité au sens multimode, voudra dire multimodalité, au sens modalité sensorielle. Donc là, je me réfère à la première leçon que Wendy a fait sur les capacités humaines. Donc on se réfère au sens, aux modalités sensorielles. Donc typiquement la vue, l'ouïe et le toucher qui est utilisé par nos ordinateurs. Et les deux autres, l'odorat et le goût, et un petit peu exploré en recherche, mais pas vraiment étudié. Et puis, il y a aussi le système vestibulaire et puis le proprioceptif qui est mis en jeu lorsqu'on interagit avec un ordinateur. Et donc, le système que Wendy vous a présenté, il est multimodal en termes de modalités sensorielles, surtout pour les modalités de sortie, puisqu'il y avait un retour visuel avec la carte qui se mettait à jour, avec les navires qui étaient déplacés sur la carte, et il y avait aussi un retour auditif, puisqu'il y avait de la synthèse de parole, qui n'était pas de très bonne qualité, mais bon, il y a 40 ans, c'était innovant à ce moment-là. Et donc ici, on est multimodal. Ce système était multimodal en sortie, en termes de modalité sensorielle. Et puis, modalité peut aussi vouloir... Donc, modalité, quand vous utilisez le mot modalité avec des collègues en psychologie, ils vont parler de modalité sensorielle. Et en interaction humain-machine, on parle de modalité d'interaction. Et là, on peut le prendre dans le sens technique d'interaction, si vous voulez. Et ici, dans l'exemple qu'a montré Wendy, on est ici multimodal en termes modalité d'interaction, puisque l'utilisateur peut utiliser des gestes et de la parole, qui sont deux modalités d'interaction possibles. Alors, ça, c'est un exemple où les deux modalités sont combinées pour faire quelque chose, pour faire une tâche. Je vous montre un autre exemple de système multimodal au sens modalité d'interaction et qui n'implique pas du tout les mêmes sens, les mêmes modalités actionnelles humaines. Ici, vous avez un système de réalité augmentée où l'utilisateur doit manipuler un hologramme qui est sur une table, par exemple un plan de quartier d'une ville. Si l'utilisateur est proche de la table, on va lui fournir une modalité d'interaction qui lui permet de directement désigner le bâtiment. Donc ça, c'est une modalité d'interaction. Et par contre, s'il est loin de l'objet, de l'hologramme qu'il veut sélectionner, on va lui fournir une autre modalité d'interaction qui est basée sur un lancer de rayon qu'on appelle recasting. Et sur cet exemple-là, ce système est multimodal, non pas au sens modalité actionnelle sensorielle, puisque c'est à peu près les mêmes types de mouvements, mais il est multimodal dans le sens modalité d'interaction. Il fournit deux modalités d'interaction. Donc c'est cette terminologie un petit peu, je dirais, ambiguë, surtout sur le mot en français multimodal, qui veut dire mode ou modalité, plus l'ambiguïté sur le terme modalité, qui ne veut pas dire la même chose selon le domaine de recherche, ça a donné naissance à des axes de travail en recherche de communautés distinctes qui ont travaillé en parallèle. Et pour les expliquer, je reprends le type de relation qu'un utilisateur peut avoir avec un ordinateur qui avait été présenté par Wendy lors de la leçon inaugurale. Et on a trois types de relations. On peut voir le système comme un médium, le système comme un partenaire ou le système comme un outil. Et dans les trois cas, les chercheurs travaillent sur l'interaction multimodale. Donc c'est important de savoir où la personne se situe et de quoi elle parle, puisque dans les trois domaines, on parle d'interaction multimodale. Si on voit le système comme un médium, donc ici c'est pour aider à la communication entre deux hommes. Wendy parlait on parle d'interface troisième personne pour ce cas-là. Donc ici voici un exemple qui est très multimodal, mais multimodal au sens mode de communication. Comme l'a annoncé Wendy, il y aura un cours sur cet aspect-là. Et donc ici, je montre un système qui s'appelle le Clearboard, qui avait été présenté dès 1994 par Ishii. Et dans ce système, on combinait à la fois des modes de communication humains différents, verbal, non-verbal, plus de la production, ce qui permettait de développer une connaissance commune, une connaissance partagée qui était très importante pour une collaboration efficace. Il y aura une leçon qui sera dédiée à ce domaine-là, mais c'est clair que le terme multimodal est utilisé au sens multi-mode de communication. Ensuite, vous avez une autre communauté qui travaille sur l'ordinateur vu plus comme un partenaire. Ça sera la dernière leçon que propose Wendy. Et ici, c'est plutôt la communauté intelligence artificielle qui travaille sur ce domaine-là. Donc, je prends un exemple extrême, mais ça peut être aussi un avatar à l'écran. Et il parle d'interaction ou de communication multimodale. Et par exemple, ce robot, qui est le robot Nao de la société SoftBank Robotics, on voit qu'il y a plein de modalités. On essaye de reproduire la communication humaine. Donc, ce robot est capable d'avoir des postures et dans la communication. Il peut traduire des émotions. Il peut maintenir le regard. Donc, c'est vraiment une approche, je dirais, très anthropomorphique où on va essayer de copier la communication humaine. Et là, clairement, on est dans le multimodal, à la fois en termes de mode de communication et à la fois en termes de modalités sensorielles. Et le dernier cas, qui est celui qui me concerne en tant que chercheuse en interaction humain-machine, on voit le système comme un outil. Alors certes, c'est un formidable outil, hein, il est extrêmement varié, mais l'important, c'est qu'il est en contrôle de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui contrôle cet outil. Et c'est dans ce paradigme-là que je m'inscris et que je travaille en interaction multimodale. Mais je pense que c'est important d'avoir délimité ces domaines parce que beaucoup de gens travaillent sur l'interaction multimodale, mais ne font pas forcément les mêmes types de travaux. Donc, c'est important de comprendre dans quel type de travaux on se situe. Donc, mon positionnement, c'est de travailler sur l'ordinateur en tant qu'outil. Et donc ici, je vous donne juste un tout petit exemple qui était un prototype qui nous avait permis d'explorer différentes modalités. Donc l'ordinateur est vu comme un outil et on a par exemple plusieurs modalités d'interaction pour interagir par exemple avec des transparents. Donc on peut laisser des choix à l'utilisateur pour passer du transparent à l'autre. Soit j'utilise la télécommande, soit j'utilise un outil que j'aurais fait en faisant des gestes de pression, je pourrais passer au transparent suivant. Et puis je peux aussi combiner les modalités, un peu comme dans le système qui combinait des gestes et de la parole. Donc ici, je vais faire un geste de désignation pour désigner un point et je vais avoir un capteur de pression pour désigner le niveau de zoom que je voudrais avoir sur ces transparents. Donc ici, on voit des exemples où on va combiner les modalités ou laisser le choix à l'utilisateur. Et je vais principalement parler de modalités d'interaction plutôt en entrée. Donc là, je prends le point de vue du système, hein, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Wendy, modalité en entrée, d'un point de vue système, c'est tous les moyens d'interaction que l'on va offrir à l'utilisateur pour communiquer avec l'ordinateur. Donc je vais plutôt centrer mon discours là-dessus. Et il y a quatre facteurs importants de la multimodalité dans ce contexte-là, qui sont la variété de types de systèmes, la variété d'utilisateurs, la variété des plateformes sur lesquelles on va faire tourner ces systèmes multimodaux et la variété des modalités d'interaction. Et donc, tout d'abord, sur les types de systèmes et la variété d'utilisateurs, comme l'a dit Wendy, l'interaction multimodale a un rôle à jouer important, déjà au niveau des systèmes qui sont adaptés à certains handicaps et l'utilisation de modalités d'interaction alternatives qui va permettre de franchir des barrières, par exemple motrices, chez l'utilisateur. Donc là, c'est un domaine d'application qui me semble très important de l'interaction multimodale. Dans les systèmes critiques, l'interaction multimodale peut permettre de fournir une interaction beaucoup plus robuste et couplée à des problèmes d'erreur. Ça va sans doute essayer de réduire le nombre d'erreurs. Dans les systèmes de réalité augmentée où on sort clairement du contexte de l'ordinateur de bureau, là, on va explorer d'autres modalités et d'autres façons de combiner les modalités. Et puis, je finis sur le domaine des jeux, parce que finalement, on constate que dans les jeux, l'innovation est souvent dirigée par des nouvelles formes de contrôle. Et c'est souvent par les jeux que les nouvelles modalités d'interaction arrivent au grand public. Donc c'est un domaine qui est aussi très important puisqu'il est vraiment centré sur les nouvelles interfaces de contrôle. Donc on l'a vu par exemple avec l'arrivée de la Wii qui a permis d'avoir des accélérants. On disait que la Wii a permis de mettre des accéléromètres dans les salles à manger des gens. Donc c'est quelque chose qui a été étudié depuis des années dans le domaine de l'interaction machine et qui est arrivé au grand public. Et donc là, on souligne une grande variété de systèmes, de types de systèmes et d'utilisateurs. Ensuite, on peut aussi souligner le multimodal a un rôle à jouer sur la variété, gérer la variabilité de plateforme. Et donc là, l'idée, c'est que selon le type de plateforme, quand vous êtes dans un système embarqué comme un cockpit, vous allez avoir de très nombreux dispositifs à disposition. Et donc la multimodalité aura pour rôle d'utiliser au mieux les dispositifs qui sont fournis par la plateforme. Et puis, on a une grande variété de modalités d'interaction prises isolamment. C'est ce qu'a présenté Wendy juste avant. Donc, on a une grande variété et on va en avoir toujours plus de modalités d'interaction. C'est évident. Donc, ici, pour résumer, le contexte de l'interaction multimodale, on a ces quatre facteurs qui sont à la fois une motivation pour l'interaction multimodale, mais aussi qui permet de délimiter l'espace des possibles selon ces quatre facteurs. Et plus on avance, plus ça grossit. Et ça nous permet de faire cette transition des interfaces classiques qui vont toujours exister. Hein. Je ne dis pas qu'elles vont disparaître demain. Donc, de ces interfaces souris, clavier, écran, à des interfaces qu'on appelle post-WIMP, où l'informatique est vraiment dans de très nombreux domaines professionnels, dans des contextes extrêmement différents, que ce soit dans les hôpitaux, dans des blocs opératoires, etc. Et là, l'interaction multimodale a un rôle à jouer important, et parce qu'on est sorti du contexte vraiment de bureau. Alors, à partir de là, ce que je voudrais présenter, parce que c'est vrai qu'on pourrait présenter différentes modalités une par une. En recherche, ce n'est pas très satisfaisant. On ne va pas passer encore les prochaines 40 années à prendre chaque modalité une par une et à étudier. Donc, ce qui serait vraiment souhaitable maintenant pour faire avancer le domaine de recherche, la connaissance dans le domaine de recherche, c'est de monter en niveau d'abstraction, de pouvoir caractériser les modalités, de pouvoir raisonner, d'aller vers une sorte de théorie de la multimodalité afin de faire avancer le domaine. Donc ça, je le traduis par en termes d'espace de conception qui serait un peu l'objectif de recherche pour éviter de regarder chaque modalité une par une indépendamment. Donc, l'espace de conception que je propose va permettre de définir ce qu'est une modalité et de définir comment on pourrait combiner les modalités. Donc, vous avez un utilisateur qui a une tâche à réaliser, donc il a une information à véhiculer, et puis il va choisir une modalité ou des modalités, et ça va donner une expression multimodale, et ce qu'on espère, c'est, du côté système, réaliser le code qui va interpréter cette expression multimodale et obtenir ce que l'utilisateur voulait faire au départ. Donc ça, c'est la vision générale. Je voudrais faire une parenthèse sur la sélection des modalités, parce qu'en multimodal, on peut se poser la question qui choisit les modalités d'interaction ? Donc, vous avez trois cas. Soit c'est le concepteur, donc c'est la partie en blanc, le concepteur décide de choisir les modalités et il n'y a plus aucun choix offert à l'utilisateur. Donc là, on parle de système où il n'y a aucune adaptation possible. Soit le concepteur va offrir plusieurs modalités. Donc c'est, par exemple, laisser le choix entre faire des commandes vocales ou du tactile ou des commandes gestuelles. Et là, l'utilisateur va choisir. Donc là, on parle d'adaptabilité. On laisse le choix à l'utilisateur. Et dans certains cas, si le système a assez d'informations, le système pourrait choisir lui-même les modalités à utiliser. Donc là, on parle d'adaptabilité et on parle de système. Donc souvent, pour être capable de faire ça, le système doit avoir de beaucoup d'informations. Et on parle de système sensible au contexte, c'est-à-dire qu'il va capturer le contexte et à partir de là, choisir les bonnes modalités. Donc là, c'est plutôt pour l'interface multimodale en sortie. Et on parle, au lieu de dire système sensible au contexte, qui, par exemple, pourrait connaître le niveau sonore, la position de l'utilisateur, etc., on parle aussi de système, entre guillemets, intelligent, qui va être capable de choisir la modalité. Donc, un exemple assez simple, c'est un système qui capterait la position de l'utilisateur par une modalité de localisation et qui choisirait en sortie de mettre par exemple votre téléphone en mode vibration automatiquement parce qu'on rentre dans une salle de cours ou choisir entre la modalité sonore ou vibration. Donc là, le système doit avoir de l'information pour être capable de choisir les modalités. Je n'ai pas développé plus avant. Ça pose de gros problèmes. C'est que là, le système prend des initiatives. Donc, je disais, ce qu'on voudrait, c'est quand même laisser le contrôle à l'utilisateur. Donc, le problème, c'est comment l'utilisateur va savoir que l'utilisateur a fait ça. Et ça, c'est un des problèmes lorsqu'on part dans des systèmes qui prennent des décisions. C'est il faut rendre observable tout ça à l'utilisateur. Sinon, moi, je ne sais pas que mon téléphone est en mode vibration. Et si j'attends un coup de téléphone extrêmement important, je veux au contraire ne pas supprimer le son. Donc, il y a toujours ce compromis entre déléguer au système quelque chose et en même temps garder le contrôle. D'accord ? Donc, c'est vraiment un compromis qu'il faut étudier. Sur l'adaptabilité, je vous présente deux études qu'on avait faites dans les années, au début des années 2000. Donc, c'était l'arrivée des smartphones et on voit qu'on peut vraiment étudier de très nombreuses modalités d'interaction sur nos téléphones mobiles. Et donc, on avait étudié trois modalités différentes pour gérer son courrier électronique sur téléphone. Donc, on pouvait faire des gestes devant la caméra du téléphone, donc des gestes dans l'air. On pouvait aussi utiliser directement le téléphone en l'inclinant. Donc, si j'inclinais mon téléphone vers le bas, ça faisait naviguer dans ma liste de mails, de courriers, la manipulation directe et puis des commandes vocales. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ce test qui avait été fait en 2003, on n'avait pas développé, on était en phase de conception, et on n'avait pas développé toutes les modalités. Et certaines de ces modalités étaient simulées. Donc, on avait par exemple simulé tout ce qui était inclinaison, manipulation du dispositif et les gestes. Et on les avait simulés par un utilisateur. Donc, c'était ce qu'on appelle une technique de magicien d'Oz. En fait, vous avez un expérimentateur qui est dans une autre pièce et on surveille ce que fait le participant et on envoie par réseau le résultat de ce que l'on voit, par exemple, par la vidéo. Donc ça, on ne le dit pas aux participants. On le dit, quand on fait du magicien d'Oz, on le dit à la fin de l'expérimentation. Donc les participants arrivaient, on leur proposait les modalités comme si elles avaient été développées. En fait, elles ne l'étaient pas. Et à la fin de l'expérimentation, on expliquait quand même aux participants que certaines des modalités étaient simulées par quelqu'un qui surveillait ce que faisait la personne. Donc ça, c'est la technique du magicien d'Oz. Elle a été créée à l'origine, elle avait été utilisée à l'origine pour la reconnaissance de la parole. Donc simuler la reconnaissance de la parole. Donc dans cette expérimentation, on avait fait passer 10 personnes sur plusieurs sessions et ce qui est juste, j'aurais juste souligné en termes de résultats globaux, ce qui est intéressant, c'est que les personnes étaient assises, donc le contexte était vraiment figé. Donc même dans un contexte figé, on voit que ces 10 personnes ont tous utilisé les trois modalités pour faire différentes tâches autour du courrier électronique. Donc là, on voit l'intérêt de l'adaptabilité, c'est-à-dire de laisser le choix à l'utilisateur qui, on voit une grande variabilité inter-individuelle et que c'est donc important de fournir plusieurs modalités sur nos téléphones puisque les utilisateurs ne vont pas les utiliser de la même manière. Et une autre étude un peu plus... Donc ça, c'était vraiment les débuts du téléphone. Vous avez vu qu'on utilisait même pas un iPhone. C'était pas un iPhone. On utilisait un ordinateur, ce qu'on appelait dans le temps les ordinateurs de poche, pour faire l'expérimentation. Donc ça, c'était en 2003. Et en 2006, on a fait une autre expérimentation. C'était aussi les débuts de la réalité augmentée mobile. On n'avait pas des casques HoloLens comme on a maintenant. Donc là, c'était un casque de réalité augmentée de Sony, qui était le Sony Glastron, qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, ce qu'on voulait étudier en termes de multimodalité, d'interaction multimodale, on a développé un jeu. Alors, c'était un prétexte, le jeu. C'était juste pour faire le protocole expérimental. Donc, la personne chercher des pièces de puzzle dans tout le campus, par exemple, ou dans toute la ville de Paris. Et le but était de finir le puzzle le premier. Et ce qui nous intéressait, c'était de proposer différentes modalités d'interaction. Et certaines modalités étaient plus dans le monde numérique. Donc la modalité tactile, qui était un écran, un petit trackpad comme on pourrait avoir sur les montres connectées aujourd'hui. Donc on avait fait un petit trackpad accroché au poignet. Donc cette modalité-là, bouger un curseur, il ressemblait beaucoup plus à ce qu'on fait dans le monde numérique. Et puis, on avait fourni une modalité gestuelle 3D qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on fait dans le monde physique. C'est-à-dire que dans le monde physique, on va attraper un objet. Donc là, on voit un enfant qui attrape la pièce de puzzle comme s'il attrapait un objet physique. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de savoir où se situaient les utilisateurs par rapport à ces modalités qui ne font pas référence au même monde, le monde numérique ou le monde physique. Et on voulait l'étudier dans le contexte de la réalité augmentée, puisque la réalité augmentée combine le monde physique et le monde numérique. Et là les résultats, là, je présente juste quelques résultats. Hein. Sur les trois modalités, ce que l'on voit là, on avait 10 personnes, on a fait 3 sessions qui avaient été étalées sur toute la semaine, donc du lundi au vendredi. On l'a aussi testé en grandeur nature lors des journées de la science en fait organisées par le CNRS. Donc là, on a eu massivement beaucoup d'utilisateurs, dont des classes, hein, des enfants qui venaient jouer aux jeux de puzzle. Mais là, sur 10 personnes, pendant 3 sessions, pendant une semaine, ce que l'on voit, c'est tout d'abord toujours une grande variabilité interindividuelle. Tout le monde utilise les 3 modalités, donc c'est important de les fournir, je pense. Une personne qui a utilisé que la parole, dès le début et tout le temps. Donc c'est une personne qui a dû tester la parole, qui a vu qu'elle marchait très bien, quoi. Les commandes vocales marchaient très bien et restaient sur la parole. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi, de souligner l'évolution dans l'usage des modalités. Et donc là, j'affiche pour chaque participant, pour les 10 participants, j'affiche la première session et la dernière session. Et ce que l'on voit ici, par exemple, sur cette colonne-là, le participant 1, la première fois, lorsqu'il explore les différentes modalités, à condition qu'on lui ait expliqué ces modalités, il va utiliser du geste, du tactile, il va utiliser ces deux modalités. Il n'a jamais utilisé la parole. Et ce que l'on voit, c'est qu'à la dernière session, après avoir joué nombreuses fois pendant la semaine à ce jeu, il va utiliser que les gestes. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent observé en multimodal. C'est une sorte de spécialisation faite par l'utilisateur. Donc il y a une phase d'exploration où on regarde un petit peu les différentes modalités. Et puis, quand on a compris quelles sont les modalités qui marchent bien pour soi, pour de différents types de tâches, on va se spécialiser sur cette modalité. Donc là, on voit un participant, le participant 1, qui va utiliser que des gestes dans l'air pendant à la dernière session. On voit ici un autre participant qui, après avoir exploré, utilise que le tactile. Donc à la fin, il n'utilise que le trackpad ou la sorte de montre connectée, hein, qu'on avait mis au poignet. Et on voit ici quelqu'un qui, après avoir exploré les 3 modalités, s'est finalement spécialisé sur la parole. Et là encore, on voit l'intérêt de l'adaptabilité, hein, c'est de laisser le choix à l'utilisateur, parce que ici, on voit 3 personnes qui, quand bien même ils auraient exploré un peu toutes les modalités, ont spécialisé vers une modalité, et ce n'est pas la même pour chacune des personnes. Donc ça, c'est important en termes de choix offert à l'utilisateur. Donc là, je reviens sur cette vue un peu plus conceptuelle du problème de la multimodalité. Donc là, j'ai fait un aparté sur qui choisit la modalité, et en particulier laisser le choix à l'utilisateur. Et maintenant, je vais définir ce que c'est qu'une modalité d'interaction et comment on peut combiner ces modalités. Donc, pour définir une modalité d'interaction, on propose une définition à 2 niveaux d'abstraction, le niveau physique et le niveau logique. Et on l'a appelé le niveau physique dispositif, qui est manipulé par l'utilisateur pour une modalité en entrée. Et pour le niveau logique, on parle de langage d'interaction. Donc cette définition à deux niveaux d'abstraction est intéressante parce qu'elle prend à la fois le point de vue de l'utilisateur et nous permet de raisonner du point de vue de l'utilisateur, mais aussi du point de vue système. Et vous vous doutez qu'en termes de réalisation logicielle, les plateformes pour réaliser des interfaces multimodales, on aura des composants logiciels, donc des éléments de code qui seront dédiés au dispositif et des éléments de code qui seront dédiés à développer des langages d'interaction. Donc, du point de vue humain, on avait travaillé avec des collègues du laboratoire de psychologie appliquée de l'Université de Cambridge qui proposaient une théorie qui s'appelle ICS. ICS veut dire Interactive Cognitive Subsystem, qui avait été proposée en 80. C'est une théorie de psychologie qui a été proposée par Phil Barnard en 89. Et donc, c'était une théorie qui explique la cognition humaine en exploitant 9 sous-systèmes, et ce n'était au départ pas du tout destiné à être étudié en recherche en interaction humain-machine. C'est étudié, par exemple, ICS était étudié pour, par exemple, étudier des dépressions nerveuses chez des personnes. Donc c'était une théorie de psychologie, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle utilise des termes d'informaticien. Donc pour nous, c'était intéressant parce que c'était assez facile de collaborer avec ces personnes. Et donc cette théorie de la cognition humaine avait un certain nombre de sous-systèmes. Donc on voit le sous-système, par exemple, auditif ici, le sous-système visuel, ici les systèmes moteurs du corps, ils distinguent l'articulatoire, voilà. Et puis au centre en gris, ce qui est intéressant, c'est une partie qui monte en niveau d'abstraction et qui correspond à toute l'analyse cognitive de l'humain. Et ici, dans cette partie en gris, il y a encore 4 sous-systèmes que je n'ai pas détaillés. Et donc cette théorie ICS donne une vue, explique un certain nombre de phénomènes cognitifs à partir de ces 9 sous-systèmes. Et on a fait le lien avec notre définition d'une modalité d'interaction. Donc on a essayé de travailler avec ses collègues à définir une théorie unifiée d'un point de vue utilisateur et système. Et donc si on définit une modalité comme un dispositif, on voit qu'on a un ensemble, on peut faire le lien avec les sous-systèmes moteurs. Donc ici, ces dispositifs vont augmenter la capacité sensorimotrice de l'ordinateur. Et puis, on peut rajouter le niveau langage qui va abstraire les données qui nous viennent de ces capteurs et qu'on va assimiler aux capacités cognitives de l'ordinateur. Alors, c'est pas du tout... c'est inspiré, on va dire, de ces architectures cognitives, mais c'est pas du tout copié. C'est juste une inspiration et un travail d'unification de théories entre psychologie et informatique. On n'a pas cherché à exactement reproduire cette architecture cognitive au niveau logiciel, mais on s'en est inspiré, on va dire. Donc ça permet de montrer que dispositif et langage d'interaction, ces deux niveaux nous permettent de travailler à la fois du point de vue humain et du point de vue de l'utilisateur et du point de vue informatique. Et là, j'ai fait le raisonnement sur l'interface en entrée et on peut effectivement faire le même raisonnement pour l'interface en sortie. Donc, avec cette définition à deux niveaux, ici, j'illustre cette définition, par exemple, avec les 4 modalités qu'on avait étudiées sur téléphone mobile. Et ce qui est intéressant ici, c'est surtout de noter qu'on a vraiment un langage gestuel pour devant une caméra en 3D pour faire naviguer, ou etc. Et ici, on a un autre langage gestuel. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux langages ne sont pas les mêmes. D'un point de vue utilisateur, il va falloir qu'il les apprenne. C'est-à-dire que si je vous donne un téléphone, vous ne savez pas comment incliner le téléphone pour faire des commandes. Donc, il va falloir apprendre ces langages. Donc, c'est important de bien les distinguer. Et d'un point de vue informatique, on va développer des éléments de code, des composants logiciels qui seront différents pour les différents langages, bien évidemment. Donc là, on voit que cette définition nous permet d'avoir vraiment les deux points de vue, ce qui est intéressant. Alors, on peut caractériser ce qu'il faudrait, et c'est vraiment l'étape actuelle, je pense, c'est caractériser maintenant une modalité, parce qu'on ne va pas encore passer 40 ans à travailler, ah, bah tiens, une nouvelle modalité, ah, bah tiens, un nouveau dispositif, on va se mettre à travailler dessus, etc. Donc, il va falloir qu'on monte en niveau d'abstraction, ça serait souhaitable, et qu'on puisse définir une sorte de théorie pour pouvoir raisonner à plus haut niveau d'abstraction que les instances des modalités d'interaction. Donc, par exemple, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait, par exemple, caractériser le niveau physique d'une modalité en reprenant cette idée de passif-actif, qui veut dire que l'utilisateur intentionnellement va manipuler la modalité ou pas. Donc, par exemple, le regard, on peut considérer que le regard est une modalité passive, parce que l'utilisateur, de toute façon, doit regarder quelque chose avant de manipuler. Donc, on est dans quelque chose qui est non intentionnel ou actif. Donc, ce qui semble pertinent, c'est de combiner une modalité passive avec une modalité active, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment des choses à explorer. Privé-public est important. Je pense que c'est un critère de choix important chez les utilisateurs de savoir si je peux utiliser cette modalité dans un lieu public. Ou non. Est-ce que je vais avoir l'air bête à faire des grands gestes dans l'air alors que je suis dans le métro dans Paris, par exemple. Et puis après, il y a le côté éphémère ou non, c'est-à-dire est-ce que je dois démarrer la modalité, comment je délimite l'usage de la modalité. Ce sont des caractéristiques que l'on pourrait continuer à essayer d'étudier. Et puis au niveau langage, là je me réfère à une théorie de la multimodalité qu'avait proposée Ole Bernsen dans les années 93, et qui avait proposé déjà trois caractéristiques, c'est déjà bien, donc en disant que la modalité au niveau logique, elle pouvait être langagière, donc là on tombe dans tout ce qui est, par exemple, la parole pseudo-naturelle, mais aussi tout ce qui est langagier symbolique gestuel. La modalité, elle peut être arbitraire. Donc là, je vais, en tant que concepteur, créer quelque chose. Donc ça veut dire que l'utilisateur devra apprendre la modalité et apprendre à l'utiliser. Alors, ce n'est pas très grave dans certains contextes professionnels où, de toute façon, l'utilisateur est entraîné. Donc je pense, par exemple, on a beaucoup travaillé dans les cockpits d'avions militaires. Et il est évident que le pilote est entraîné pendant plusieurs années avant de voler. Donc, de toute façon, ce n'est pas très grave d'utiliser des modalités arbitraires. Donc, ça dépend vraiment. Mais par contre, pour un objet du quotidien qu'on va mettre dans notre salle à manger, je n'ai peut-être pas envie de passer 10 ans à apprendre à utiliser l'outil. Donc, ça, tout dépend du contexte. Et puis, je voudrais faire une parenthèse sur l'aspect analogue qu'il avait identifié. Et une modalité au niveau logique, au niveau du langage qui est analogue, ça a ouvert la porte vers les modalités tangibles, où on repose sur des gestes du quotidien. On suppose que ça va être facile à utiliser parce qu'on va utiliser des gestes du quotidien. Et un des premiers exemples d'interface tangible avait été proposé par Hiroshi Ishii au MIT, où il avait mis un capteur sur un bouchon d'une bouteille, par exemple. Et en ouvrant la bouteille, on déclenchait un événement. Donc au lieu de cliquer avec la souris, vous ouvrez une bouteille. Et vous voulez recliquer ou recréer un autre événement, vous refermez la bouteille. Donc là, ça ouvre un vaste espace de possibilités, puisqu'on va prendre n'importe quel objet du quotidien, lui rajouter des capteurs, et ensuite, ça va devenir une modalité d'interaction. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de choix possibles. Et là, je présente un exemple qu'on avait développé, des travaux qu'on avait fait à Grenoble, où on avait fait une plateforme logicielle qui permettait d'abstraire tous ces capteurs et de développer très rapidement ces objets augmentés pour en faire des modalités ensuite. Donc ici, l'exemple qui est montré là, donc je vais le montrer comme ça. Bon, là, on a pris un objet pâte à modeler, hein, j'aurais pu prendre la bouteille en plastique. Dessus, on a mis un capteur de lumière, et quand on expose l'objet à la lumière, on va faire tourner la Google Earth, par exemple. Donc là, vous voyez, c'est vraiment juste simuler des événements à partir d'un objet augmenté. Et ce qui est intéressant là, en termes de recherche, c'est qu'on a proposé un modèle conceptuel d'objet augmenté qui permettait aussi d'abstraire les capteurs, qui partait des propriétés physiques de l'objet que vous choisissez en tant que concepteur pour faire l'interaction, pour arriver aux propriétés numériques en haut. Et entre les deux, on a réutilisé notre définition de dispositif langage. Et donc, par exemple, pour cette pâte à modeler, cet objet rond, on a rajouté un capteur de lumière et le langage, qu'on n'appelle pas langage d'interaction, mais langage de liaison, c'était un seuil qui nous permettait de mettre à jour une propriété booléenne, est-ce que l'objet est exposé ou pas. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que de notre définition d'une modalité dispositif-langage, on peut le voir de façon récursive, et donc le dispositif peut lui-même être détaillé par un dispositif de liaison et un langage de liaison. Donc on a quelque chose qui est récursif. Et donc, cet outil-là, ce travail-là a donné, a permis de travailler sur une plateforme logicielle qui permet de développer rapidement ce type d'objet et d'explorer plein de possibilités en situation de recherche. Donc, c'est un outil de prototypage qui permet de faire ça. Donc, jusqu'à là, ce que je vous ai montré, c'est la définition d'une modalité d'interaction en termes de dispositif langage avec ses caractéristiques. Et donc, on voit que ça définit un vaste espace de possibilités qu'on doit explorer, qui est quand même très large. Et on peut aller encore plus loin en regardant les relations entre modalités d'interaction. Et là, on présente quatre relations possibles que l'on peut choisir d'implémenter dans un système multimodal. On l'appelle les propriétés CARE parce que ça signifie complémentarité, qui est une forme de relation, assignation, redondance et équivalence. Donc, on va regarder un exemple de chaque et pourquoi on ferait ça, quel serait l'apport de ce type de relation en d'interaction multimodale. Donc, un ensemble de modalités peuvent être équivalentes, redondantes ou complémentaires par rapport à la réalisation d'une tâche. Donc, on se positionne toujours entre modalités et tâches à réaliser. Donc, on pourrait dire qu'un ensemble de modalités est complémentaire pour réaliser une tâche. Et puis, on peut avoir l'absence totale de choix lorsque le concepteur va décider d'assigner une modalité à une tâche. Donc ici, vous avez soit l'assignation où on va associer, on n'a pas le choix, si l'utilisateur veut réaliser la tâche T2, il doit utiliser une modalité qui est prédéfinie. Et par contre, pour la tâche 1, il peut, l'équivalence qui est le contraire de l'assignation, choisir une des modalités possibles. Et donc l'équivalence se reporte à ce qu'on a appelé l'adaptabilité juste avant. Alors je mets un exemple d'assignation. Donc, par exemple, ici, alors, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Donc là, je vous montre un des premiers exemples qui avait été fait en 99 dans l'équipe. Mais il y a eu bien d'autres exemples après, avec les téléphones mobiles, surtout. L'idée, c'est on a une modalité qui est le toucher sur l'écran tactile du téléphone. Ici, sur un ordinateur, c'est la souris. Donc, on a une modalité qui est quand même extrêmement chargée, où on fait tout avec aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je fais tout avec la souris et mon clavier sur mon ordinateur. Donc, l'idée, c'est de laisser nombreuses tâches à cette modalité-là, mais d'assigner une autre tâche pour des choses qui sont, je dirais, entre guillemets, annexes, mais en fait, ce sont des tâches qu'on appelle articulatoires, qui sont des tâches qui ont été rajoutées parce que l'ordinateur. Et un bon exemple de tâche articulatoire, c'est le défilement. Le défilement n'est pas quelque chose qui existe dans le monde réel, mais on a de partout cette barre de défilement. Et ce que l'on voit, c'est que on a une palette. Et ce qui se passe, c'est que si on n'a qu'une seule modalité, l'utilisateur passe son temps à changer de contexte, qu'on appelle contexte graphique. Donc, pour augmenter la performance en interaction multimodale, on va rajouter une modalité qui va décharger un peu la première modalité. Donc, ça a été largement étudié depuis ce système-là sur les téléphones mobiles pour décharger le touch, la modalité touch, par d'autres modalités, et en particulier pour faire le défilement sur l'écran de nos téléphones. Donc ici, ce qui a été conçu, c'est une autre modalité qui permet de remplacer donc la barre de défilement et qui est basée sur des tout petits gestes que l'on fait naturellement lorsqu'on lit à l'écran, qui est de baisser un tout petit peu la tête pour faire défiler, pour regarder le bas du document. Sur la vidéo que je vous montrais, ici on voit des briques roses, ça peut paraître bizarre, mais ça c'était le protocole expérimental qu'on a mis en place. Imaginez qu'à la place de ces briques violettes, vous avez un document Word. Et donc on va libérer la souris qui va travailler sur le texte, et on va, avec des tout petits gestes de la tête, on va faire défiler, on va éviter, on va faire défiler le texte. Donc c'était basé sur un système de vision par ordinateur qui a été développé dans l'équipe, qui est assez robuste, comme on voit, parce que l'utilisateur peut s'éloigner de l'écran, donc c'était indépendant de la distance. Et donc les tout petits gestes permettent de faire défiler le document. Et donc, dans le protocole expérimental, il fallait sélectionner la brique grise, et les conclusions principales de cette expérimentation, c'était un apprentissage très rapide. Les utilisateurs apprenaient très rapidement à utiliser cette interaction multimodale, et une amélioration qui était assez importante du temps de sélection des icônes. Donc là, il y avait un gain qui était clair, puisqu'on était plus performant. Voilà. Alors, il y a bien d'autres exemples sur l'assignation. Maintenant, sur les choix, ici, je vous montre d'autres exemples de choix. On peut utiliser plein d'autres modalités sur les téléphones mobiles. Et donc, on va laisser les utilisateurs choisir la modalité selon son contexte d'usage. Et ici, on avait fait des tests sur des données boursières, là, qui étaient ces deux données-là. Et on a pu accéder, grâce à une collaboration avec une entreprise qui fait des logiciels mobiles pour des données boursières, à des gens qui utilisent ces applications-là. Et juste une remarque qui était que ce genre de modalité permet de naviguer très rapidement. Donc, on se déplace comme si on avait les données boursières devant soi. Donc, on peut aller très rapidement à une année et revenir. Mais ce genre de modalité, les participants nous ont dit « Allez, je ne l'utiliserai pas en public ». C'est quelque chose qui est socialement pas acceptable aujourd'hui. La personne a dit « Je risque d'avoir l'air bête de faire devant des gens ce genre de mouvement. Donc, je vais préférer utiliser une modalité peut-être moins performante, mais socialement acceptable. » Par contre, ça, je suis d'accord pour le faire quand je suis seule chez moi, sur mon canapé. Par contre, pourquoi je n'utiliserais pas mon ordinateur ? Je pense que quand vous jouez en bourse et que vous êtes à la maison, vous utiliserez plutôt votre ordinateur que votre téléphone. Mais bon, imaginons à la maison. Donc, ils sont d'accord pour l'utiliser seul, mais pas en public. Donc, c'est juste une remarque sur l'adaptabilité. C'est important de fournir différentes modalités d'interaction, parce que, surtout pour les supports mobiles, puisqu'on va avoir différents contextes d'usage et on ne va pas utiliser les mêmes modalités selon le contexte. Ensuite, après l'assignation et l'équivalence, deux propriétés qui sont la complémentarité. Et donc là, un des premiers systèmes qu'on a développé 10 ans après le système que vous a présenté Wendy, en 1992, ici on avait combiné de la parole. Alors c'est vrai que les débuts de l'interaction multimodale, c'était de la parole, hein, dans les années 90. Donc ici, le système qu'on a développé, ça combinait de la parole, mais pas avec des gestes dans l'air, mais avec la souris. Donc ici, on pouvait par exemple dessiner une fleur qui était de toutes les couleurs. Donc ça, c'était en 92, donc on avait testé ce système-là qui combinait paroles, et je pense que c'était un des vraiment des premiers systèmes multimodaux qui avait été étudié en France suite aux travaux du MIT. Et ça, ça a été repris 10 ans plus tard. Wendy a présenté un autre exemple 10 ans plus tard ensuite, mais juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que la parole en multimodal, et ici, ça a été repris en interaction à deux mains, où on peut effectivement dessiner avec une main, donc le stylet, et avec la deuxième main, changer la couleur. Donc ici, on fait par exemple un trait multicolore. Ça serait très difficile à faire si on n'avait pas le multimodal. Donc là, on voit le gain de performance d'augmenter les capacités sensorimotrices de l'ordinateur. Alors, un autre exemple, je n'ai peut-être pas développé, mais un autre exemple d'interaction multimodale sont avec suivi du regard. Et donc, il y a eu plusieurs études pour améliorer le pointage en utilisant le suivi du regard. Donc, on continue à utiliser la souris, hein, parce que le regard, ce n'est pas un outil de pointage chez l'homme. Donc, ça, ce serait une erreur, sauf dans le cas où la personne serait vraiment handicapée et n'aurait pas le choix. Mais si vous avez essayé des systèmes où on peut utiliser le regard pour ouvrir un menu, c'est extrêmement difficile à faire, parce qu'en termes de charge cognitive, c'est difficile. Donc, on va laisser la souris, c'est la souris qui pointe, mais on va améliorer le pointage en utilisant du suivi du regard. Donc ici, on avait proposé un système dans les années 2009 où on avait, dès que vous bougez la souris, on fait apparaître plein de curseurs à l'écran, donc une matrice de curseurs, et le curseur qui est actif est celui que vous regardez. Et là, on a observé des gains de performance en pointage très importants, donc c'est le bleu, donc ça, c'est le système qu'on a développé. Et si on compare au rouge, qui est le contrôle, c'est-à-dire la souris toute seule, donc on a un gain qui est de l'ordre de 38%, donc c'est très important quand on pense au nombre de fois où on va pointer dans la journée sur notre écran, on a un gain qui est très important. Et par contre, on le compare aussi, on a un gain qui est aussi tout à fait important vis-à-vis de la courbe verte, qui correspond à l'idée de base, qui serait de dire, bon, ben, je vais faire sauter le curseur là où je regarde à l'écran. Alors, le problème de faire sauter le curseur, de façon générale, manipuler le curseur, ce n'est pas une bonne idée. L'utilisateur, il perd le contrôle et il n'aime pas. On voit qu'on a un gain à ne pas faire sauter le curseur et à montrer plein de curseurs à l'écran pour éviter de désorienter l'utilisateur. Dès que vous faites sauter le curseur, il y aura une perte de temps à retrouver où est le curseur. Donc là, l'idée du système de base avec le eye tracking, c'était de faire sauter le curseur là où on regarde, mais ça, ce n'est pas forcément performant, et on propose avec cette approche, on affiche plein de curseurs à l'écran, d'éviter de faire sauter le curseur. Et enfin, la redondance, qui est la quatrième relation. Donc là, on voit que la redondance, c'est demander à l'utilisateur d'utiliser deux modalités pour faire une seule tâche. Et il ne pourra faire cette tâche que s'il utilise les deux modalités. Donc c'est vraiment obligatoire d'utiliser les deux modalités. Donc là, par exemple, on utilise deux modalités dans le cockpit d'un avion pour une tâche qui serait... Donc l'exemple, c'est de marquer un point au sol, donc pour identifier le nom de la commande. Marquer ne sera fait que si l'utilisateur utilise les manettes qu'il a dans les mains, le pilote, et une commande vocale. Donc s'il n'y a pas les deux, la tâche ne sera pas déclenchée. Donc, redondance, c'est souvent pour augmenter la robustesse de l'interaction et être sûr que l'utilisateur veut marquer un point au sol, par exemple. Donc, dans le cockpit d'avion, on a aussi développé des interactions complémentaires. Donc, on a vraiment développé les quatre différentes relations, mais en particulier la redondance. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les deux dernières, complémentarité et redondance, on doit implémenter des contraintes temporelles qui deviennent importantes. Donc on peut avoir des relations très différentes. Là, j'ai mis les relations temporelles de Allen, mais il va falloir, au niveau informatique, décider comment on va fusionner toutes ces informations. Donc il faut développer un moteur de fusion pour la redondance et la complémentarité et jouer sur les aspects temporels. Donc si, je prends l'exemple de la redondance, si j'appuie sur un bouton et puis une demi-heure après, je dis « marquer », est-ce que là, je vais considérer que c'est de la redondance ou pas ? Donc, je pourrais décider que ma fenêtre temporelle est très, très large. Donc, je serais dans ce cas-là. Et là, il y aurait une demi-heure entre les deux modalités. Donc, là, il y a des choix à faire. Et ce qui est important, c'est que dans le moteur de fusion, il va falloir prendre en compte ces contraintes temporelles que l'on veut et sans doute les mettre au point par différentes expérimentations. Voilà, donc pour finir, je voudrais juste revenir sur un point sur le développement de ce genre d'interface. Donc on voit un grand espace de possibilités. On peut agrandir cet espace de possibilités. On peut rajouter des étoiles dans cet espace de possibilités en combinant les modalités, par la redondance, l'équivalence, la complémentarité, ou l'assignation, non, mais l'équivalence, la complémentarité, la redondance. Et en termes d'exploration de cet espace, c'est un problème, c'est que si on veut avancer dans le domaine de recherche, il va falloir explorer toutes ces étoiles. Et le problème, c'est que c'est très difficile à évaluer, à développer et à évaluer. Donc, je voudrais juste faire une remarque sans rentrer, il faudrait une leçon complète là-dessus, sur les contributions qui, elles, sont là de ce coup-ci en ingénierie de l'interaction multimodale. C'est que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun outil de boîte à outils multimodale qui existe. Et ça, c'est un frein important si on veut voir de plus en plus d'applications multimodales grand public. Et donc, les entreprises ne vont pas passer des années à développer à chaque fois des interfaces multimodales. Et à chaque fois qu'on développe, on repart à zéro, quasiment. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux dès les années 2000 sur faire des plateformes de prototypage. Mais c'est vraiment des outils de prototypage pour les chercheurs qui vont accélérer l'exploration de ce grand espace de possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces plateformes logicielles, alors c'est un gros travail d'ingénierie, hein, avec trouver les solutions d'ingénierie pour définir ces composants, toutes ces plateformes proposent des enchaînements de composants. Donc on va assembler des composants. Et une des plateformes, on en a développé plusieurs à Grenoble, mais une des plateformes qui était le projet Open Interface dans les années 2008-10, on reprenait explicitement notre modèle conceptuel. Et donc, on avait des composants qui étaient des dispositifs, des composants qui étaient des langages, et on avait une grande quantité, on avait un repository de langages, un repository de dispositifs, et puis on avait des composants qui étaient la complémentarité, la fusion complémentaire, la fusion redondante, et pour se connecter à une application, on avait un composant qui était tâche. Et donc ça, ce composant tâche nous permettait de nous connecter aux applications, à Google Earth, enfin, un jeu vidéo, etc., etc. Donc, mais ça, c'est des outils de prototypage. Et dans l'industrie, ils vont réfléchir. Il n'y a pas vraiment de boîte à outils multimodale qui existe et on va repartir à chaque fois à zéro, ce qui explique pourquoi il y a peu de systèmes multimodaux grand public. Voilà, alors il me reste 5 minutes, donc je vais accélérer sur ce point-là, mais je voudrais juste conclure sur les apports de l'interaction multimodale. Ce qu'on a vu, c'est que si on a envie d'aller vers ces étoiles, c'est pour la flexibilité, et je pense que c'est très important pour surtout l'interaction en situation mobile, puisque les contextes d'usage seront différents. C'est important de ne pas faire des hypothèses sur comment l'utilisateur utiliserait lorsqu'il est en public ou en privé. Et laisser le choix à l'utilisateur, ça me semble vraiment une approche très importante. Et donc, le multimodal a un rôle à jouer ici. La performance, donc là, c'est vraiment l'idée. Je reviens à l'idée du goulot d'étranglement que Wendy avait présenté dans sa leçon inaugurale. L'idée, c'est d'augmenter la bande passante. Et si on augmente la bande passante, eh ben, on va être plus efficace. Et donc, on va augmenter les performances. Et on a vu plusieurs exemples où on va augmenter les performances. Et le dernier point, c'est l'accessibilité, qui est quand même un domaine important de l'interaction multimodale pour pallier certains handicaps qui peuvent être passagers. Par exemple, on peut considérer que quelqu'un qui est sur un vélo et qui veut interagir avec son téléphone, c'est sans doute, on ne veut pas pouvoir regarder l'écran, et ça revient à une personne qui ne pourrait pas voir l'écran comme une personne malvoyante ou aveugle. Donc c'est un domaine important que j'ai peu développé là, ici. Et je voudrais vous montrer un exemple qui est en cours, pour finir, de ce que l'on fait pour l'accessibilité. Alors, je vais passer rapidement. On travaille une modalité qui est la modalité micro-geste. Donc, on a développé un gant qui est un prototype de recherche. Le vrai système ne sera sans doute pas un gant, ce sera une bague, ce sera une caméra extérieure qui va se... Donc là, en prototype de recherche, on a développé un gant qui nous permet de capturer tous les gestes que l'on veut. On a un vocabulaire, donc le langage gestuel est très riche, des micro-gestes de la main. On peut avoir différentes zones des doigts et les ongles. Et on a défini une notation pour montrer l'espace des possibles qui est très large. On a une notation qui s'appelle microglyphe, qui va être présentée la semaine prochaine dans une conférence qui est basée sur des glyphes pour définir tous ces micro-gestes. Donc ici, pour définir ce geste-là, et dire que le doigt descend, on va mettre une flèche. Et puis, on va mettre un rond vide, un rond plein pour dire qu'il y a le contact, le toucher. Et puis, qu'on a touché le pouce avec le rond rouge. Donc là, il y a toute une notation. Je n'ai pas du tout le temps de développer ces notations, cette notation qui permet d'analyser les micro-gestes, mais on a clairement un large langage de micro-gestes. Et ce qu'on a exploré avec le micro-geste, c'est le fait qu'on va s'appuyer sur la proprioception pour faire de l'interaction sans regarder. Et du coup, on l'a utilisé dans plusieurs cas. Donc, je vais passer sur ces cas-là pour avancer juste sur le dernier cas qui m'intéresse. Donc, on l'a appliqué dans le cadre de la réalité augmentée. Donc, on fait des micro-gestes qui est couplé au suivi du regard, puisqu'on fait l'hypothèse que les micro-gestes, on les fait sans regarder sa main. On l'a appliqué avec des résultats tout à fait prometteurs dans le cockpit d'un avion de chasse. Donc là, on continue à travailler là-dessus, mais on a des résultats extrêmement prometteurs sur les micro-gestes faits par le pilote, en particulier lorsque le pilote a à faire une autre tâche en parallèle, puisque souvent, on va générer des alertes ou des tâches de pilotage. Donc là, on a des résultats très importants de performance. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier les micro-gestes pour des personnes malvoyantes ou aveugles. Et on va augmenter l'interaction touch. Donc l'idée, c'est de voir comment on pourra utiliser des raccourcis touch pour des malvoyants qui utilisent des tablettes et des téléphones. Donc là, on voit des travaux qui ont été faits à Toulouse pour l'enseignement où on rajoute par-dessus les tablettes un papier qui a du relief et ça permet aux enfants d'apprendre, par exemple, des bar charts, etc. Et donc ici, ce qu'on regarde, c'est on a fait un premier test avec notre gant en micro-geste où sur une carte, quand la personne aveugle ou malvoyante a enfin trouvé un point explore toute la carte tactile, trouve un point d'intérêt, ici le point d'intérêt c'était Paris, et à partir de là peut faire des micro-gestes tout en gardant le contexte, le graphique, mais ce n'est pas un contexte graphique, mais il va pouvoir explorer le menu lié à Paris, par exemple le nombre d'habitants, etc., etc. Et puis, on a fait la même chose, un autre scénario que je vais sauter, mais qui permet de faire du copier-coller. Donc, la personne malvoyante va écouter toutes les icônes et va ramasser une icône. Donc, on fait un raccourci gestuel et va le reposer un peu plus loin. Donc là, il va rechercher l'endroit où il veut le mettre. Et puis, il va faire un geste de verser comme ça, en faisant un geste micro-geste sur la main. Et donc, il va déplacer l'icône. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, je voulais juste vous montrer que je vous le présente en disant que c'est fantastique, ça a l'air de vraiment faire gagner beaucoup de temps pour les personnes malvoyantes. On est vraiment en phase d'exploration, là, le projet est vraiment en cours. Et ici, je vous montre juste un exemple avec une personne malvoyante. On l'a aussi testé avec à peu près 6 personnes malvoyantes et une personne aveugle. Et on voit quand même que ce n'est pas aussi du tout aussi facile que ça. Donc là, il y a eu beaucoup d'expériences avant.
Discord.
Ok.
Et je veux que tu me le copies et tu me le colles avant Amazon.
Ok.
Amazon. Discord. Copier.
Donc là, elle le copie par un micro-geste.
Avant Amazon.
Amazon. Facebook. Amazon. Vous voulez vous déplacer l'icône. Vous voulez vous déplacer l'icône. Après. Avant.
Ça permet de finir sur ce point-là. C'est que c'est pas aussi facile que ça et que cognitivement, les micro-gestes, ça paraît très rapide. Bon, on peut les faire sans regarder, mais en termes de charge cognitive, c'est à étudier et on voit souvent des erreurs sur le doigt. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation d'interaction, Finalement, on se trompe de doigt si vous n'avez pas les mêmes commandes sur chaque doigt. Donc là, il va falloir aller un peu plus loin et étudier ça plus en détail. Donc, on voit les apports, mais je voudrais finir sur cette idée-là. Attention aux limitations des capacités humaines et à la charge cognitive, parce que je pense que c'est un problème. L'apprentissage des modalités, c'est pas toujours... Si le langage est arbitraire, il va falloir apprendre. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans l'interaction multimodale. Les transitions entre modalités, on l'a vu sur l'interaction multimodale sur téléphone mobile. Le temps de transition, on va changer de modalité pour avoir un gain de performance, mais le temps de revenir à l'autre, on va le perdre. Donc, les transitions entre modalités est quelque chose à étudier. Et enfin, les connaissances des modalités disponibles. Ce n'est pas parce que vous allez passer un an à développer des modalités et de l'interaction multimodale que l'utilisateur va spontanément les utiliser. Donc, il y a aussi un problème de connaître les modalités et savoir quel type de modalité le système offre à l'utilisateur. Et ça, c'est un problème. Voilà, je vous remercie de votre attention.